Bonjour à tous. Est-ce qu'il y a encore des gens dans le foyer? Le culte va commencer. Vous prenez place, s'il vous plaît.
Savais-tu que ton nouveau-né nous ferait naître à nouveau? Savais-tu que ton nouveau-né est aussi là pour toi que cet enfant dans tes bras un jour te sauvera? Marie, savais-tu que ton nouveau-né enseignerait les sages? Marie, savais-tu que ton nouveau-né calmerait les orages? Savais-tu que ton nouveau-né serait béni des cieux quand tu embrassais son visage, tu embrassais ton Dieu?
Aujourd'hui, un Sauveur vous est né, c'est le Christ le Seigneur. Et vous trouverez un enfant emmailloté et couché dans une crèche. Gloire à Dieu dans les cieux très hauts et paix ici-bas, sur la terre, parmi les hommes, bienveillance, eux que Dieu aime. C'est l'annonce et le chant que les anges ont adressé aux bergers, et c'est celle que je vous adresse aujourd'hui, en ce quatrième dimanche de l'Avent. C'est presque Noël, nous allons fêter Noël. Bienvenue à chacun dans ce culte, qui que vous soyez, d'où que vous veniez, quel que soit l'état de votre foi. Soyez tous et chacun les bienvenus, sentez-vous tous chacun les bienvenus. Il y a parmi nous une femme qui est membre de l'église de Jean-Claude et Licia Saillon, Rosana, et qui nous apporte leur salutation. Elle est là occasionnellement, elle nous apporte leur salutation. Nous avons aussi reçu des salutations de Sylvie Ménétret, que nous ne voyons plus, mais qui pense souvent à nous. Que la paix de Dieu est pour nous tous. Elle nous accompagnera, j'espère, pendant ce culte. Le chant des anges au berger est repris dans la troisième strophe de Voici Noël. Paix ici-bas, bienveillance envers tous les hommes, pour nous aussi, tels que nous sommes, un sauveur nous est né, le Fils nous est donné. En restant assis, si vous le voulez, non, en vous mettant debout, si vous le voulez ou si vous le pouvez, nous chantons Voici Noël. Seigneur, c'est un grand mystère pour nous que ta venue sur terre. Un Dieu qui vient dans un nouveau-né, qui vient nous rencontrer, qui vient nous parler de Dieu, qui est le Fils de Dieu et qui est aussi le Fils de l'homme, c'est un grand mystère. Nous t'apportons nos questions, nous t'apportons nos attentes envers toi. Seigneur, que ton esprit nous accompagne pendant ce culte. J'aimerais, Seigneur, dans ce culte, que chacun de nous reçoive un petit morceau de ta présence, ou un grand peut-être aussi, afin que notre Noël soit illuminé de toi. Amen. Nous chantons « Écoutez le chant des anges ».
Prendre place. Alors Denise, mélangeons pas tout quand même. Denise m'a demandé qu'est-ce que ça évoquait pour moi le fait que Christ soit venu sous la forme d'un bébé. Alors cette année, mon épouse et moi, donc Claire-Lise, mon épouse et moi, je précise, mon épouse et moi, on a eu la joie d'accueillir deux petits bébés. Hein, pas mal, hein? Enfin, comprenez-moi bien, quand je dis on a eu la joie d'accueillir, nous, on est les grands-parents. C'est clair pour vous. Bon, d'accord. Ouf. Alors, tout d'abord, il y a eu le petit Mathias qui est né au mois d'août chez notre fils Laurent et Kay. Et puis, au mois d'octobre, est née Chloé chez notre fille Sandrine et Francisco. Alors, on a été, évidemment, chronologiquement parlant, tout d'abord invités à rencontrer Mathias. Alors, je savais intellectuellement qu'il mesurait 51 cm, ça je vois à peu près, et qu'il pesait dans les 3 kilos. Mais à un moment de la visite, la maman de Mathias m'a dit « Tu veux le porter ?» J'ai regardé le bébé, il était tellement petit. Je suis sûr qu'il ne faisait pas 50 cm. Je crois qu'il les déplie quand il les mesure. Il avait des pieds comme ça, des mains minuscules. Puis il avait l'air tellement fragile. Et pourtant, c'était déjà une personne, Mathias. Alors j'étais à la fois surpris de la petitesse et impressionné parce que c'était une personne. Alors j'ai répondu, non, écoute, je ne crois pas. J'ai peur de casser quelque chose. Mais si, allez, prends-le. Non, on ne va pas prendre de risque. Hein. Alors la maman était un peu surprise, un peu déstabilisée, et puis moi j'étais un peu mal à l'aise. Et heureusement, Mathias s'est mis à pleurer. C'était l'heure de la tétée. Ouf. Alors aujourd'hui, on fête Noël. C'est la naissance de Jésus. Et il faisait combien de centimètres à la naissance, Jésus? Entre, je ne sais pas, 48 et 51, donc quelque chose comme ça, j'imagine. Hein. Ce n'est pas beaucoup. Et son poids dans les 3 kilos, 2,9, 3,2, 250 peut-être. Hein. Et est-ce que vous croyez que Joseph a eu peur de le prendre dans ses bras tellement il était fragile? Peut-être bien. Il a plutôt l'habitude des poutres, Joseph. Et est-ce que vous croyez que Jésus a pleuré? Certainement. Il a pleuré. Il a pleuré pour vivre, déjà en sortant de Marie, j'imagine. Et il a pleuré pour que Marie, sa maman, le prenne dans les bras et lui donne le sein, évidemment. Ça veut dire que Dieu, l'immense créateur, le créateur de l'immensité de l'univers, un univers qui, on croit encore maintenant, se développe, hein, s'agrandit. Ça veut dire que Dieu, le créateur, est venu sur terre comme un petit bébé. Et ça, c'est la bonne nouvelle de Noël. Dieu est entré, l'éternel est entré dans l'histoire humaine. Et il a eu besoin des bras réconfortants d'une mère. Ça, c'est stupéfiant. Ça veut dire que Jésus sait ce que c'est que d'être à notre place. Parce qu'on a tous été des bébés, on a tous eu besoin d'être réconfortés. Il sait qu'on a besoin d'être consolés. Il sait qu'on a besoin d'être réconfortés. Il sait qu'on a besoin d'être aimés. Et c'est pour ça qu'il est venu. Et c'est pour ça qu'il est présent aujourd'hui pour chacun de nous. Joyeux Noël!
Nous chantons gloire au Seigneur. Et vous le dites.
Gloire au Seigneur, paix sur la terre et bienveillance parmi les hommes. Gloire au Seigneur, paix sur la terre et bienveillance parmi les hommes. C'est ce qu'ont chanté les anges dans cette nuit si étrange. Les bergers soudain ont compris ce que les prophètes avaient dit. Gloire au Seigneur, paix sur la terre et bienveillance parmi les hommes. Gloire au Seigneur, paix sur la terre Faites la bête annoncée. Gloire au Seigneur, paix sur la terre et bienveillance parmi les hommes. Gloire au Seigneur, paix sur la terre et bienveillance parmi les hommes. Gloire au Seigneur, paix sur la terre et bienveillance parmi les hommes. Gloire au Seigneur, paix sur la terre et bienveillance parmi les hommes.
Les enfants, vous allez rejoindre vos groupes avec Rebecca et Michel et Elisabeth Cretigny, pardon. Je connais Elisabeth depuis plus de 40 ans, donc je devrais me souvenir de son nom. Nous allons prier pour vous avant que vous partiez. Seigneur notre Dieu, les enfants, c'est une bénédiction. Merci de leur naissance où nous pouvons voir la réalité de ce que c'était que ta naissance pour Marie, Joseph, et pour la réalité de toi, humain, sois avec ses enfants, sois avec Rebecca, Michel et Elisabeth. Bénis-les, qu'ils sachent que tu les aimes et qu'ils te prennent avec eux sur leur route. Amen. Bon groupe à tous.
Nous lisons dans Luc, au chapitre 2, le récit de Noël. En ce temps-là, l'empereur Auguste donna l'ordre de recenser tous les habitants de l'Empire romain. Ce recensement, le premier, eut lieu alors que Quirinius était gouverneur de la province de Syrie. Tout le monde allait se faire enregistrer, chacun dans sa ville d'origine. Joseph, lui aussi, partit de Nazareth, une ville de Galilée, pour se rendre en Judée, à Bethléem, là où était né le roi David. En effet, il était lui-même un descendant de David. Il alla s'y faire enregistrer avec Marie, sa fiancée, qui était enceinte. Pendant qu'ils étaient à Bethléem, le jour de la naissance arriva. Elle mit au monde un fils, son premier-né. Elle l'enveloppa de l'ange et le coucha dans une mangeoire, parce qu'il n'y avait pas de place pour eux dans la maison où logeaient les voyageurs.
Merci. Bonjour à chacun, à chacune. Je crois que si nous sommes ici ce matin, c'est parce que nous espérons qu'il se passe quelque chose dans notre vie. Nous attendons qu'il y ait une sorte de surgissement dans le courant des jours et des saisons. Nous attendons quelque chose comme un réenchantement. Noël, n'est-ce pas justement le surgissement de quelque chose qui change la vie, pour de bon, véritablement. Seulement voilà, les versets de Luc que nous avons lus disent que Noël, ce n'est qu'un enfant qui naît. 48, 49, 51 centimètres. 2,8 kg, 2,9 kg, 3,1 kg. Un enfant. Ce qui se passe à Noël est manifestement bien faible pour changer le monde. Que peut bien faire un nouveau-né ? Un nouveau-né ne peut rien, au sens où il n'a aucune force pour mettre en place des stratégies capables de rendre le monde infiniment bon, ou du moins un peu plus supportable. Un nouveau-né n'a aucun pouvoir pour contraindre qui que ce soit à faire quoi que ce soit. Noël peut-il nous sauver de la brutalité du monde ? Noël peut-il vraiment nous sauver des crises en tout genre, du aquabonisme et de la lassitude qui gagne même les bonnes âmes ? Noël peut-il nous sauver de la brutalité du monde ? Oui, bien sûr, mes amis, bien sûr. Non seulement Noël peut nous sauver aujourd'hui, mais c'est précisément de Noël dont nous avons besoin pour ressusciter, pour nous sortir de ces lieux où nous nous épuisons lentement. Bien-aimés, n'atténuez jamais ce que vous ressentez profondément. N'atténuez jamais cette douleur, ce désir, ce chagrin, cet espoir qui refuse de mourir. Nous dépensons tant d'énergie à nous engourdir et à appeler cela maturité, sagesse ou foi, alors que c'est souvent juste de la peur déguisée en langage religieux. Ressentir profondément les choses ne vous rend pas faible. Cela vous rend humain. Et la grâce ne vous aplatit pas en quelque chose de moins vivant. Elle vous rencontre là, dans le désordre, la douleur, les contradictions, et elle vous dit, « Toi, tu es toujours à moi. » Ne ternissez pas ce que Dieu utilise pour vous réveiller. Et pour cela, songeons à Noël, tel qu'il nous est donc raconté par l'évangile de Luc, qui ne semble pas être à la hauteur de la situation. Un nouveau-né qui n'avait pas de place pour venir au monde est placé dans une mangeoire. Quand on y pense, c'est tellement dérisoire. Quand on pense à tous les moyens que nous déployons de nos jours pour montrer de la force, de la puissance, un nouveau-né ne pèse pas lourd. Mais c'est là l'évangile que j'aimerais que nous retenions. Un évangile qui fait l'éloge de la faiblesse, du manque, du trois fois rien. L'évangile des démunis, l'évangile sans munitions, l'évangile sans le pouvoir d'exercer la moindre contrainte. Et pourtant, tout se met en mouvement à partir de là, à partir de ce nouveau-né. Des savants se mettront en route de l'autre côté de l'horizon pour adorer celui qui n'a strictement rien fait pour cela. Des bergers vont accourir et traverser les territoires qui les séparent de ce nouveau-né qui n'a rien demandé, rien exigé, rien fait pour cela. ce nouveau-né est sans pouvoir, sans moyens financiers. Il est on ne peut plus faible, fragile, comme le sont tous les nouveau-nés. Fragile. Mais il n'est pas sans force, comme le sont tous les nouveau-nés. Il n'est pas sans force. Et Jésus me semble annoncer la vérité dont l'apôtre Paul sera un peu plus tard le porteur. Quand je suis faible, c'est alors que je suis fort. La faiblesse, la fragilité, la vulnérabilité sont des choses précieuses dans la vie. La vulnérabilité, elle crée un appel d'air qui attire de la bienveillance, capable de prendre soin de ce qui est précarisé. Et plus encore, la vulnérabilité permet à la grâce de Dieu de se déployer. Noël nous sauve, aujourd'hui encore, parce que Noël nous sensibilise à la fragilité de l'existence, tout en nous révélant la grâce dont nous sommes à la fois l'objet et rendu capable. C'est cela que j'aimerais encore développer courtement en deux points qui me semblent exprimer l'esprit de Noël qui est susceptible de venir à notre secours pour le temps présent. Premier point est celui du besoin et du désir. Le nouveau-né a tous les besoins. C'est bien simple. Un nouveau-né n'a aucune autonomie. Il n'est capable de rien seul. Laissez un nouveau-né seul et ça lui sera fatal. Laissez un nouveau-né seul et il ne peut rien faire du tout. Un nouveau-né a besoin de tout. Et cela dit quelque chose de notre condition humaine, même une fois que nous sommes devenus adultes. Ce serait une illusion de penser que nous n'avons plus besoin de qui que ce soit. Ce serait une illusion de penser que nous sommes autosuffisants. La vérité que nous ont rappelé, par exemple, les années Covid et les mesures de confinement, c'était il n'y a pas si longtemps, 5 ans à peine, c'est que nous avons besoin du regard des autres. Ce regard qui nous permet de nous sentir exister. Ce nouveau-né mis dans une mangeoire nous rappelle, je crois, quelques besoins assez fondamentaux qui sont les nôtres. Certains parmi nous ont besoin d'être rassurés sur l'avenir, sur la géopolitique, sur la crise climatique, sur les enjeux économiques, besoin d'être rassuré. J'ai lu la Bible jusqu'à la dernière page, ça se finit bien. Certains ont besoin de nouvelles perspectives professionnelles, étudiantes, relationnelles, sentimentales. Besoin de considération, d'interaction enfin apaisée avec tel ou tel membre de la famille, du voisinage, de l'église. D'autres ont besoin de retrouver juste le goût de l'insouciance. Que se lève enfin le voile de l'inquiétude qui pourtant s'épaissit de plus en plus chaque jour, malgré tout ce qui est fait pour nous divertir ou nous rassurer. Vous savez, dans la Bible, les besoins ne sont pas systématiquement couverts. Lorsqu'un psalmiste crie vers Dieu parce qu'il se sent oppressé ou au contraire parce qu'il se sent abandonné, ses ennemis ne disparaissent pas. Ou au contraire, une foule d'amis ne surgit pas de terre spontanément. Pour autant, il ne se passe pas rien dans la vie de cet homme. Ce que nous révèlent les psaumes, c'est que la prière permet au psalmiste de passer du besoin au désir. Passer du besoin au désir. Passer d'une situation passive où nous espérons que les choses vont s'arranger, à une situation active où nous prenons les choses en main. Ainsi en va-t-il du nouveau-né Jésus, qui a besoin d'être nourri, abondamment nourri, mais qui est déposé dans une mangeoire. Signe que celui qui devrait être nourri s'avère être celui qui est capable de nourrir. Le besoin est métamorphosé en désir. Ainsi, la puissance de l'Évangile consiste, je crois, plus que jamais à métamorphoser notre besoin, par exemple, d'être protégé de la violence, en un désir de paix. L'Évangile convertit notre besoin d'entendre une voix affectueuse en un désir d'aimer. L'Évangile nous rend acteurs de notre vie au lieu de nous faire tout en attendre. L'Évangile nous décentre, en somme. Et même le petit bout d'homme est rendu capable, dès ses premières minutes, d'être acteur de l'histoire humaine en prodiguant au monde une part de ce dont le monde a besoin pour vivre. Lui qui est d'ores et déjà considéré comme la nourriture pour l'humanité. Nous voyons dans la trame des évangiles tous ces adultes qui se mettent en route, qui s'animent, qui ont eux-mêmes un désir qui les pousse à rejoindre de nouveaux horizons. Ce que je constate dans ce récit de Noël, c'est qu'il aurait pu être rempli de plaintes, rempli de lamentations, mais qu'il n'en est rien. Parce que même quand il n'y a pas de place pour une vie heureuse, Dieu fait de la place pour autre chose que la plainte. Dieu fait place au désir de trouver des solutions. Dieu nous aide à repérer dans le creux de nos attentes et de nos demandes le désir d'un autre monde et s'attacher à cela, en faire notre horizon désormais. Et Dieu nous aide à prendre la route en direction de cela, comme le font les mages, comme le font les bergers. Quand il n'y a plus de place pour l'avenir, parce que le présent est entièrement saturé par le manque, par le besoin, par la fragilité, Dieu fait de la place pour le désir. Dieu fait de la place pour qu'advienne encore de la vie. Et pas seulement la vie sur le plan physiologique, avec une activité cardiaque, une activité cérébrale, mais la vie au sens de l'existence. La vie dont on peut dire qu'elle est vraiment jouissive. Place au désir et place à l'imagination. Parce que cette mangeoire transformée en berceau indique le chemin du salut tel que l'Évangile le révèle. Ce chemin, c'est celui de l'imagination, c'est celui de la créativité, c'est celui du système D. On n'a pas de pétrole, mais on a des idées. C'est cela, Noël. De la créativité qui s'exprime, je crois, dans deux directions. La première forme de créativité, elle consiste à recycler, à transformer ce dont nous disposons pour le rendre plus adapté à nos besoins. Ces besoins qui font de la place au désir. C'est en procédant ainsi que le monde n'a cessé d'évoluer et que ses habitants ont toujours réussi à répondre aux défis qui étaient les leurs. Prenez la Bible, par exemple. Il n'y a pas de création ex nihilo dans la Bible. Il n'y a pas de création à partir de rien. Ça n'existe pas. Au commencement, dit Genèse 1, il y a le tohu-bohu. Un grand bazar, chaotique, qui rend la vie difficile, sinon même impossible. Et c'est à partir du tohu-bohu, à partir du grand bazar, que les paroles de Dieu vont faire quelque chose d'un peu plus vivable, en faisant preuve de créativité. Les paroles divines vont donner une nouvelle fonction à ce qui fait l'univers. Et c'est ainsi que cet univers va devenir vibrant et vivable. C'est cela qui se passe pendant tout le récit de la création. Rendre l'univers vibrant et vivable. Et c'est ainsi que nous agissons à chaque fois que nous nous en sortons. Nous reconfigurons l'existant. Nous lui donnons une nouvelle allure, une nouvelle fonction. Nous effectuons les métamorphoses nécessaires pour rendre la vie plus vivable. Le calcaire est métamorphosé en bâtiment. Le vent ou un cours d'eau devient de l'électricité. De l'argile devient un vase. Une bouteille d'eau devient un gilet de sauvetage, etc. Et le deuxième aspect de la créativité, c'est que nous faisons mieux que d'utiliser l'existant. Qu'il s'agisse des éléments naturels ou de produits manufacturés, nous utilisons les contraintes. Dans notre récit de Noël, il y en a des contraintes qui n'empêchent pourtant pas le récit d'avancer. Au contraire, elles lui donnent de l'épaisseur, elles lui donnent un supplément de sens. Prenez la contrainte du recensement organisé par César Auguste. De cette contrainte, l'évangéliste Luc en profite pour relever que le nouveau-né Jésus naît à Bethléem, la ville de David, ce grand Messie avant le tout grand Messie. Et puis Bethléem, en hébreu, c'est la maison du pain, c'est une boulangerie, Bethléem. Et Jésus est vraiment là pour nourrir notre humanité. Il transcende la contrainte, il fait en sorte que nous ne mourions pas. Cette histoire, c'est l'histoire de la métamorphose, du dépérissement en une vie infiniment plus vivable et goûteuse. On pourrait penser à notre gestion des contraintes. L'humanité se dresse sur la surface de la Terre, ce qui est déjà une victoire sur les contraintes physiques, quand on sait que notre squelette était plutôt adapté à la posture à quatre pattes. Le génie humain s'exprime dans l'utilisation des contraintes qui pourraient apparaître comme des entraves à notre liberté dans un premier temps. Par exemple, faire flotter les 40 000 tonnes d'un porte-avions quand on sait qu'une pièce de 1 franc coule à pic. C'est le trait de l'imagination au pouvoir. Nous pourrions tout aussi penser à la science qui a été mise à profit pour l'élaboration des avions qui prennent appui sur l'air. Pensons au fonctionnement d'une voiture qui se déplace parce que la translation d'un piston du moteur devient une rotation des roues. Une translation transformée en rotation. Ça, c'est l'imagination au pouvoir. Ce récit de Noël indique que Dieu fait de la place. Quand il n'y a plus de place pour la moindre espérance, pour la moindre alternative, pour la moindre personne. Quand il n'y a plus de place dans les lieux habituels, dans les formes communes, Dieu nous rend capables de métamorphoser l'existant. Et de trouver de nouveaux lieux, de nouvelles places, d'envisager l'espace autrement, de donner de nouveaux destins à ce à quoi nous nous étions pourtant habitués. Dieu nous aide à sortir des ornières de l'histoire et il nous aide à ouvrir de nouvelles voies, à faire de la place pour de nouveaux rendez-vous. Alors lisons. Et relisons encore et encore ces récits de Noël pour nous sortir de notre fatigue, pour nous sortir de notre lassitude, de notre absence de désir, de notre charge mentale qui nous empêche parfois toute forme de créativité. Et ne cherchons pas, jamais, le salut du côté de la force. Jamais. Retrouvons plutôt, avec Jésus, les chemins de la fragilité, de la vulnérabilité, où nous pourrons accueillir la grâce qui s'y exprime et qui nous invitera à prendre des responsabilités. Interrogeons-nous à nouveau sur ce que nous avons à notre disposition et sur la manière la plus évangélique d'en faire usage. En lisant les évangiles de Noël, découvrons notre responsabilité de faire de la place pour injecter du désir, de la joie, de la grâce dans tous ces paramètres qui font notre quotidien. Et avec ça, je vous souhaite à toutes et à tous un très joyeux Noël. Que le Dieu de grâce repose sur vous. Amen.
Et en plus, il est mort sur une croix. Mais Jésus n'est pas venu sur terre seulement pour mourir sur la croix. Il a rencontré une foule de gens. Il a accueilli, parlé, écouté, touché, guéri, délivré, secoué, remis sur les rails. Par sa vie, il a démontré l'amour de Dieu et enseigné une nouvelle façon de vivre avec lui. Pour chaque personne qu'il a rencontrée, et pour nous aujourd'hui, quand nous le rencontrons, il transforme le besoin en désir. Désir de trouver des solutions. Il faut de l'énergie quand même. Et nous avons besoin de la force de Dieu avec nous. La croix résume tout ce que Jésus a été sur la terre, tout ce qu'il a fait, tout ce qu'il a dit, tout ce qu'il a été. C'est ce que nous rappelons quand nous prenons la Sainte Cène. Paul nous dit, en effet, voici l'enseignement que j'ai reçu du Seigneur et que je vous ai transmis. Dans la nuit où il fut livré,
cette nuit même, dit Jésus, cette nuit, vous allez tous m'abandonner.
Dans la nuit où il fut livré, le Seigneur Jésus prit du pain et après avoir remercié Dieu, il le partagea et dit, « Ceci est mon corps qui est pour vous, faites ceci en mémoire de moi. »
Il était 9h du matin quand on le cloua au bois. Les passants l'insultaient.
De même, il prit la coupe après le repas et dit, « Cette coupe est la nouvelle alliance qui est conclue grâce à mon sang. » Toutes les fois que vous en boirez, faites-le en mémoire de moi.
Vers 3h, Jésus cria, « mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Il poussa encore un grand cri et il mourut.
En effet, toutes les fois que vous mangez de ce pain et que vous buvez de cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne.
Écoute, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui. Je prendrai un repas avec lui et lui avec moi.
Je vous invite à prier. Cher Seigneur, nous nous présentons devant toi, avec beaucoup de reconnaissance, avec au moins autant d'attente. Nous avons besoin de ton salut, nous avons besoin de force, de sens. Merci de les tenir à portée de main pour nous, portée de cœur, à portée de bouche. Merci pour ton corps donné, pour ton sang versé. Tu es le pain de vie. Et nous voulons accueillir avec reconnaissance, encore une fois, ce que tu viens insuffler pour nous sauver de la brutalité du monde. Fais-nous cette grâce d'accueillir ce repas comme tu l'as voulu pour nous, en nous souvenant de ton sacrifice, en nous souvenant du privilège de faire partie de ton Église, de ton peuple, et en ayant encore en perspective ce jour où, réunis avec toi et avec la foule des témoins qui nous ont précédés et nous suivront, nous partagerons ce repas. Ton règne vienne, que ta volonté soit faite. Dans le nom de Jésus. Amen.
En parlant de scène, on dit souvent communion. Un mot qu'il est pour moi qui est parfois difficile à cerner. Dans le mot communion, il y a le mot comme, c'est du latin, avec et union. Donc la scène est une communion, une union avec le Christ et une union entre nous tous qui sommes frères et sœurs. Le pain que nous rompons nous unit au corps de Jésus-Christ qui s'est donné pour nous. La coupe de vin nous unit au sang du Christ qui a été versé pour le pardon des péchés. Nous allons prendre la scène. Je vous invite à ouvrir votre porte à Jésus, lui qui la frappe à cette porte, à lui permettre d'entrer pour prendre ce repas avec vous. Prenez, mangez et buvez, c'est le Seigneur qui vous invite. Et partagez, nous sommes frères et sœurs. Seigneur, merci pour tout ce que tu nous as donné. C'est si grand que nous avons de la peine à le concevoir. J'ai cette prière. Rends-moi capable, rends-nous capable de recevoir tout ce que tu aimerais nous donner. Seigneur, ce matin, nous aimerions penser aussi à ceux qui ne sont pas avec nous, ceux que nous avons sur notre cœur, nos frères et sœurs dans le monde, et nous aimerions te prier pour eux. Je vous invite à prier, que ce soit dans votre cœur ou à haute voix, pour notre monde et pour tous ceux qui vous tiennent à cœur.
Annonce la paix sur la terre et nous constatons autour de nous tellement de conflits. Nous te prions de la faire advenir, cette paix-là, et de susciter des hommes et des femmes de bien pour la faire avancer, s'il te plaît. Manifeste ta présence dans ces lieux de conflits, de guerres intenses. Manifeste ta présence, s'il te plaît, auprès de ceux qui sont sur les lignes de combat ou sur les chemins de l'exil. Ils ont besoin de toi et nous les recommandons à ta grâce. Amen.
Seigneur, tu as choisi de venir dans une famille, Seigneur. Alors, Seigneur, je te prie ce matin, pour toutes les familles de la terre, Seigneur. Il y a de la discorde. Il y a des problèmes, Seigneur. Je te prie de venir à leur aide, Seigneur, pour qu'ils puissent retrouver vraiment cette joie immense, Seigneur, de te connaître, parce que tu es venu pour sauver, Seigneur. Tu as aimé tellement que tu as donné ta vie, Seigneur. Alors je te prie pour toutes les familles, Seigneur. Pour toutes ces familles, Seigneur, désespérées parfois. Aide-les, Seigneur, à te retrouver, s'il te plaît. Révèle-toi. Je te le demande, Père, merveilleux. Au nom de Jésus-Christ. Amen.
Oui, Seigneur, merci de nous rappeler que, au-delà de toutes les festivités, tous les repas de famille et l'arbre de Noël et les cadeaux, Seigneur, tu nous as fait ce cadeau immense, bien au-delà de tous les cadeaux qu'on peut recevoir dans cette époque. Merci pour le cadeau de Jésus-Christ que tu nous as fait. Merci encore, Seigneur. Nous te louons. Amen.
Et je vous invite à dire ensemble cette prière qui résume toutes les prières. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire au siècle des siècles. Amen. Et nous nous levons pour chanter « J'ai confiance en toi ».
Parce que tu es venu sur terre, parce que tu as pleuré, souffert, parce qu'aujourd'hui tu es mon frère, j'ai confiance en toi, j'ai confiance en toi. Parce que tu comprends bien mes peurs. Parce que tu connais bien mon cœur. Alors simplement je dis Seigneur, j'ai confiance en toi. J'ai confiance en toi. Parce que tu as donné ta vie pour qu'un jour je voie du moi aussi. À cause de ton amour infini, j'ai confiance en toi. J'ai confiance en toi. Puisque maintenant tu es vivant. Puisque maintenant tu es puissant. Parce que tu me dis ne crains pas. J'ai confiance en toi. J'ai confiance en toi. J'ai confiance en toi.
Vous pouvez prendre place. Brièvement, quelques annonces. Mercredi 24 décembre, c'est la veillée œcuménique de Noël au centre œcuménique. C'est un culte radio diffusé, donc nous sommes attendus à 22h45. Vous savez comment ça se passe, les cultes radio diffusés. Nous sommes une petite équipe à avoir préparé ce culte, Philippe bien sûr, mais aussi Claude Parnigoni, Elisabeth Boujon, Aline Steinbrüchel et moi-même. Je vous encourage, c'est toujours un... Bon, quand on habite Bérin, c'est super parce qu'on est tous les Mérinois en train de fêter Noël ensemble. Le mercredi 31 décembre, vous êtes invités à fêter Nouvel An à l'EM. Ce sont Jacques Rosset et Chantal qui vous invitent. Je crois que vous arrivez à lire mieux que moi. Voilà, repas, musique, jeux, inscription dans le foyer auprès de Chantal Rosset. Et à la sortie de ce culte, un vin chaud et du jus de pomme chaud avec quelques biscuits vous attendent. Vous pouvez vous lever pour recevoir la bénédiction. Oui. Oui, merci d'avoir signalé la lettre pour Sylvie, merci. Bon, avant la bénédiction, j'ai oublié l'offrande, pardon. Mais nous, vous pouvez quand même rester debout pour chanter « Viens, peuple fidèle ».
que votre amour l'implore, que votre foi l'adore, et qu'elle chante encore ce don précieux.
Merci pour votre générosité. Merci à Dieu et qu'il bénisse notre Église et tous ceux qui portent la bonne nouvelle dans le monde. Paix ici-bas, bienveillance envers tous les hommes, pour nous aussi tels que nous sommes. Un Sauveur nous est né, c'est le Christ le Seigneur. Que la paix de Dieu vous accompagne tout au long de ces fêtes de fin d'année. Que la joie des anges en annonçant la naissance de Jésus soit aussi votre joie. Que la lumière qui a fait si peur aux bergers illumine votre cœur et vos journées. Allez en paix. Bon dimanche.
Staubige Lampen werfen ihre Schatten durch das Zimmer. Ich sitz rauchend am Fenster und hab immer noch keinen Schimmer. Denn seit Tagen bist du weg, verschwunden im Nirgendwo. Ich sollte mich beruhigen und sowieso.